Gardarem la Terre sur Radio Albitzes et Radio Erdotan. Gardarem la Terre, c'est pas que de l'écologie, ou plutôt si l'écologie couvre un spectre large, si on la définit comme la préservation de la planète Terre dans de bonnes conditions d'existence pour le vivant. Alors aujourd'hui, on va parler d'armes nucléaires.
Vous ne le savez peut-être pas, mais le 7 juillet 2017, à l'ONU, 122 pays ont adopté un traité pour interdire les armes nucléaires. À l'origine de ce traité, ICAN, la Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires, vient même d'être récompensée du prix Nobel de la paix. Pourtant, la bombe atomique est loin d'avoir disparu. Et la raison est simple, aucun des pays qui la possède ne veut l'interdire. La France, par exemple, n'a qu'un seul mot à la bouche, et ce depuis 60 ans.
Dissuasion.
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 La dissuasion.
La dissuasion nucléaire.
La dissuasion, c'est l'idée que le simple fait de posséder l'arme nucléaire dissuade les autres pays de nous attaquer. Mais alors, la dissuasion nucléaire nous protège-t-elle vraiment? Pour le savoir, il faut analyser trois arguments principaux de ses partisans. D'abord, un argument historique. Depuis que les puissances internationales possèdent la bombe, aucune guerre ne les a directement opposées. C'est vrai, mais 1. Rien ne prouve que c'est grâce à la bombe. Et 2. Ce n'est pas la preuve que cela ne se produira jamais. À plusieurs reprises déjà, le pouvoir de dissuasion de la bombe a montré ses limites. En 1961, par exemple, le président américain John Kennedy décide le débarquement des exilés cubains dans la baie des Cochons. C'est alors quasiment une déclaration de guerre à l'URSS, qui possède pourtant l'arme nucléaire. Mais Kennedy choisit de tout de même prendre le risque. 60 ans plus tard, le même danger plane sur le conflit qui oppose la Corée du Nord et les États-Unis. Si les menaces sont surtout verbales, entre Kim Jong-un et Donald Trump, les provocations militaires se font de plus en plus audacieuses. Deuxième argument des pro-dissuasion, il existe déjà un traité international pour encadrer les armes nucléaires, le traité de non-prolifération, adopté en 1968. Son but, interdire à toute nouvelle nation d'acquérir la bombe. À l'époque, 5 pays la possèdent. Les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine. 50 ans plus tard, il y en a 9. L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord officiellement, Israël officieusement, se sont ajoutés à la liste. Malgré le traité de non-prolifération, la bombe a donc proliféré. Mais au fond, tout cela n'est pas surprenant. Après tout, dans la doctrine de la dissuasion, c'est la bombe qui nous protège. C'est donc pour se protéger que les États qui ne l'avaient pas ont cherché à l'obtenir. Ainsi, depuis 1995, près de 3000 cas de matériel nucléaire volé, perdu ou détourné ont été enregistrés. Enfin, dernier, et probablement l'argument le plus fort pour la dissuasion, la disparition des armes nucléaires, ça ne se décrète pas. Je m'explique. Si la France et les autres États dotés s'engageaient à démanteler leur arsenal nucléaire, qui peut croire que la Corée du Nord se contenterait gentiment d'obéir? Alors certes, c'est un problème. Mais d'abord, personne ne dit que le désarmement nucléaire se fera en une nuit.
Historiquement, l'interdiction a toujours été une première étape essentielle vers l'élimination d'armements.
Voici Tim Wright. Il est directeur d'ICAN Asie-Pacifique et donc prix Nobel de la paix 2017.
Elle aura d'abord un impact financier sur la modernisation des armes nucléaires, puisque le traité interdit l'aide à la fabrication d'armes nucléaires. Donc, il y aura des conséquences très concrètes. Cela permettra aussi d'établir une norme morale. C'est une déclaration par la communauté internationale qui dit que ces armes sont inacceptables.
C'est cette méthode qui a d'ailleurs fait ses preuves avec d'autres armes de destruction massive, comme les armes chimiques et biologiques. En ce qui concerne les armes chimiques, en 25 ans, plus de 65 000 tonnes d'agents chimiques ont été détruites, soit 92% du total déclaré. Et aujourd'hui, seuls 4 États n'ont pas ratifié la convention d'interdiction, la Corée du Nord, l'Égypte, le Soudan du Sud et Israël.
Et voilà, on commence cette émission par cet extrait d'une vidéo du journal Le Monde datant du 19 octobre 2017, il y a un peu plus de 3 ans, puisque nous enregistrons aujourd'hui le 19 janvier 2021 cette émission. Et en ce mois de janvier 2021, il y a une date importante en rapport avec ce que nous venons d'entendre. c'est l'entrée en vigueur de ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN. D'illégitimes, les armes nucléaires seront désormais illégales au niveau du droit international à partir du 22 janvier 2021, ou depuis le 22 janvier 2021, si vous nous écoutez, après les 9 États possesseurs de la bombe et les 32 États affiliés deviennent des délinquants face aux 156 États qui excluent les armes nucléaires de leur politique de sécurité, selon Abolition, la lettre d'information gratuite publiée par l'association Abolition des armes nucléaires, née de la fusion en 2016 de la maison de vigilance et du collectif Armes nucléaires Stop. Localement, chez nous, dans le Tarn, des militants et militantes ont œuvré en ce sens et nous recevons l'un d'entre eux, qu'on a déjà entendu sur nos ondes via d'autres casquettes, mais tout aussi humanistes. Guy David, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par parler du COT parce que tu en fais partie et on parlera d'autres composantes qui ont mené cette bataille. Est-ce qu'on peut rappeler, sans trop faire tout l'historique, mais rappeler d'où vient le COT ?
Bon, le COT, c'était à l'origine, COT, collectif d'objectifs. Tarnais, qui est devenu collectif d'objectrices et d'objecteurs tarnais, ben c'était des gens qui, à l'époque, il y avait la conscription, et donc c'était des gens qui refusaient cette conscription et qui soit prenaient le statut d'objecteur, et soit s'insoumettaient et avec les pénalités qu'il y avait. Et donc, voilà, donc ces gens-là, dont je faisais partie, se sont regroupés et ont créé ce groupe en aide des uns aux autres objecteurs. Mais très vite, on a travaillé sur le nucléaire, parce qu'à ce moment-là, il y avait, c'était donc au début des années 80, il y a eu des grosses campagnes sur les missiles russes et américains, les Pershing, Cruise et les SS-20, quoi. Et donc, on s'est inscrit dans cette campagne dès le début, et donc depuis 1980, c'était l'un de nos thèmes majeurs de boulot, quoi. Et donc, là, il y a eu cette campagne, mais on a aussi intervenu, on est allé plusieurs fois à Biscarrosse pour s'opposer au M51, qui est un nouveau missile français qui était en préparation. Alors, on a réussi à retarder parfois les essais. Bon, malheureusement, on ne les a pas arrêtés. Bon, mais si dit, bon, on s'était impliqué là-dessus. Et si on parle donc du nucléaire militaire... Bon, on s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait aussi le MAN, un mouvement pour une alternative non violente, et l'Appel des Sangs qui travaillait sur ce thème. Et il y a une dizaine d'années, on a dit bon, qu'on a décidé de conjuguer nos efforts et de travailler sur le thème ensemble. Et nous avons proposé diverses conférences, notamment avec les gens les plus pointus, mais notamment Patrice Bouveret, qui est l'un des porte-parole d'ICAN. Jean-Marie Collin, qui est aussi une des personnalités qui est les plus fortes sur ICAN. Et voilà, et donc tous les deux ans à peu près, nous avons fait des débats aussi avec à celle d'avant, avec en invitant tous les partis politiques pour voir comment ils s'exprimaient là-dessus.
Pour se positionner, ouais.
Pardon ?
Pour se positionner sur cette question-là, pour que chaque politique se positionne.
Oui, voilà, donc on en avait fait, bon, enfin, tous n'ont pas répondu, mais enfin bon, on a pu le faire. Et donc après, avec divers intervenants, moi je sais pas, on a dû faire 7 ou 8 conférences. Et bon, bien sûr aussi, il y a eu un très bon film qui a été fait, qu'on a passé. Et après, on avait invité donc Patrice Bouveret pour le commenter et Paul Quilès, puisque Paul Quilès a fait un super bouquin là-dessus. Et donc, pour nous, ça nous intéressait de voir un ministre de la Défense qui s'oppose à l'armement nucléaire. Bon, c'était un peu original, intéressant. Et ça montrait aussi qu'il n'y a pas que des pacifistes bélans, comme on veut bien nous caricaturer, qui s'opposent à l'arme nucléaire.
Et on rappelle que Paul Quilès, avant d'être maire de Cordes, avait été dans le gouvernement Mitterrand, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
En tant que ministère donc, de la Défense, le ministre de la Défense. Donc opposé au nucléaire, et on renverra vers ses travaux, notamment vers ses conférences et ses écrits. Donc Guy David, on te reçoit aujourd'hui parce que, donc, je l'ai dit, il y a une actualité spéciale en ce début janvier, fin janvier plutôt, 2021. Le COT, c'est une histoire, tu l'as dit, qui commence à dater, même si son combat est toujours d'actualité. Est-ce que vous avez fait, vous, le COT et les autres composantes, le lien assez rapidement, ou est-ce que c'est compliqué à faire, le lien entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil ?
Ce que je peux en dire, je pense, moi, que si la France s'est tellement impliquée dans le nucléaire civil, c'est d'abord parce qu'elle voulait avoir la bombe atomique et avoir le nucléaire pour le nucléaire militaire. Je pense que donc, s'il n'y avait pas eu ce choix de la bombe atomique, je suis persuadé qu'on n'aurait pas eu l'énergie atomique actuellement en France au degré où elle est actuellement.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Le soir, quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout.
Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc en rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Et puis il y va. T'es là, tonton ? Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut des excuses à ce que sa carrière était aussi petite.
Excusez-moi.
Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant:
soyez sages.
Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir sauvé la France.
On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia.
Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
De retour sur Radio Albitzès et Air d'OTAN avec Guy David du COT, le collectif des objecteurs et objectrices du TAN. Nous enregistrons cette émission le 19 janvier 2021 à l'occasion, puisque c'est cette semaine, donc le 22 janvier, l'occasion de la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, qui entre en vigueur le 22 janvier et ouvre une nouvelle ère, celle de l'illégalité complète des armes nucléaires au regard du droit international. Après l'interdiction des armes biologiques en 1975 et l'interdiction des armes chimiques en 1993, ce sont maintenant les armes nucléaires, dernière catégorie d'armes de destruction massive, qui font donc l'objet d'un traitement d'interdiction. Ce traité interdit notamment de mettre au point, mettre à l'essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque manière que ce soit, de posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, et d'employer ou menacer d'employer des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Guy David, donc on est toujours avec toi à un plateau, mais on cite aussi tes camarades de lutte.
Oui, eh bien, il y a le MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, l'Appel des 100 et le COT. Et il faut savoir que ces trois groupes adhèrent à la campagne internationale ICAN, qui œuvre depuis 13 ans pour avoir la ratification de ce traité. Donc c'est quand même l'aboutissement de 13 ans de boulot qui est là. Et donc ce 22, pour nous, oui, c'est un jour historique.
ICAN, donc campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Ce traité, c'est donc effectivement, c'est un jour historique, ce 22 janvier 2021. Ce traité est ambitieux. À ton avis et à votre avis, comment on fait respecter un tel traité dans un monde qui semble toujours plus instable ? Comment on fait appliquer
oui,
ça ?
Oui, alors malheureusement, il engage les États qui l'ont signé. Les États qui ne l'ont pas signé sont des délinquants, hein, d'après la loi internationale, mais ils ne sont pas tenus de le respecter. Mais pour autant, ce n'est pas qu'un traité symbolique. Cette ratification a quand même des implications qui vont, nous l'espérons, permettre d'aller vers un désarmement nucléaire. Alors, notamment, alors les implications, il y a le fait déjà que les États qui ont l'arme nucléaire ne peuvent pas être insensibles au fait que plus de 122 pays disent qu'ils sont opposés à cette arme nucléaire. Je crois que si on remonte un peu dans l'historique, il faut comprendre les choses. En 1968, il y a eu le TNP, traité de non-prolifération des armes nucléaires, dont il a été signé là par les États, et dont les États qui étaient dotés de l'arme disaient aux autres États de ne pas se procurer l'arme nucléaire. Et en contrepartie, ceux qui avaient l'arme nucléaire s'engageaient à aller vers le désarmement nucléaire. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'était en 68. Hein, 50 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les États possédant l'arme nucléaire augmentent leur budget. Donc, ils contreviennent totalement. Et c'est pour ça qu'il y a des États et ICAN qui ont travaillé à marge du TNP pour obtenir ce traité.
Donc, c'est la société civile qui a pu aussi avancer, donc avec des militants. Toi, par exemple, tu t'es intéressé à ça comme, en tant que citoyen au départ, comme beaucoup d'autres.
En tant que citoyen. Puis bon... Moi, je pense aussi que autant pour le climat, il y a une sensibilisation. Bon, il y a une sensibilisation que il y a un problème climatique maintenant dans la population. Par contre, sur l'arme nucléaire, c'est la politique de l'autruche. On dit c'est trop compliqué, on met la tête dedans. Et alors que, je veux dire, s'il y a deux dangers actuellement, c'est ce qui se passe au niveau du climat et la bombe atomique, c'est pas parce qu'elle n'a pas explosé pour le moment, enfin, elle a déjà explosé à certains endroits, oui. Attention, pas le truc, mais pourquoi depuis il n'y a pas eu d'autres explosions, mais qu'on est à l'abri pour autant. Et justement, si ce traité a eu lieu, c'est que dans les différentes réunions qu'il y a eu, il y avait la Croix-Rouge qui était, il y avait aussi les associations humanitaires, et la question était... Que se passerait-il s'il y avait une explosion nucléaire ? Et donc toutes ces études ont été menées et toutes sont arrivées, on ne pourrait pas le gérer. Ce serait la catastrophe totale, on ne pourrait pas le gérer. Alors est-ce qu'on va continuer, pour nous et pour les générations futures, à continuer à vivre avec cette épée de Damoclès ? Alors quand on nous dit que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre insécurité, je suis désolé, et là-dessus... C'est pas une arme de devenir. Bon, je veux dire, le terrorisme ou ces trucs, ça se règle pas avec l'arme atomique. Et donc... Ben voilà, il faut aller dans le sens de ce traité, mais ça demande aussi de s'impliquer, mais même au niveau du simple citoyen.
Quelles sont les actions que vous avez menées, depuis quelques années, avec le MAN, le collectif L'Appel des Sangs et le COT, justement, en direction des simples citoyens ?
Donc alors bon, je dis bon, nous avons fait, je me souviens plus exactement, 5 ou 6 conférences pour sensibiliser, mais ça bon, après tout bon, il y a eu du monde tout le temps, du monde, mais il y a 150 personnes quoi. Hein, bon, enfin, ça permet quand même de, grâce à vous, grâce aux autres médias, de le faire savoir. On a fait aussi sur la place publique, on avait érigé un énorme missile qu'on avait fabriqué, et puis on était sur le Vigan, et puis demandé de venir signer, informer. Le grand problème est d'informer quoi là-dessus, parce que finalement ici, c'est vrai qu'en France on n'est pas très, je vois d'autres pays, je l'ai dit tout à l'heure, comme l'Angleterre, où c'est très costaud quoi, alors qu'ici c'est un travail d'information, de sensibilisation, mais qui doit s'augmenter bien sûr, pour arriver, puisque l'objectif quand même est d'arriver que la France prenne une autre position que ce qu'elle a actuellement. Et, bon, je peux rappeler la position de Macron en 2018, qui disait « Oh, des débats, oui, c'est nécessaire ». Mais il a dit « Mais le débat sur le nucléaire, il est tranché. La dissuasion fait partie de l'histoire de la France et elle restera. Circuler, il n'y a rien à voir. Pif, paf. » Voilà, donc là, on a la position. Et nous, on ne veut pas de cette position. C'est, au niveau financier aussi, donc, entre 2018 et 2025, il a été prévu de dépenser 37 milliards, en gros 5 milliards par an. Au-delà, il faudra passer à 6 milliards, alors qu'avant 2018, on était à 3 milliards et demi. Donc une augmentation de 2,5 milliards par an quand même. Hein. Donc c'est aussi une dépense incroyable.
Uniquement pour le nucléaire, on parle du... Hein? Uniquement pour le nucléaire.
Pour le nucléaire militaire. Mmh. Pour le nucléaire militaire uniquement, cette augmentation. Et c'est... en contradiction avec le traité signé par la France. Il ne faut pas oublier, d'après le traité TNP, la France devait s'engager sur la voie du désarmement. Bon, et elle fait comme les autres, hein, je veux dire, les autres États dotés font la même chose, mais donc il faut forcer ces États dotés à prendre une autre politique et à respecter aussi ce que demandent les États qui n'ont pas l'arme.
Et Guy David, tu parlais tout à l'heure de l'Angleterre notamment. En France, peut-être, il y a une chape de béton sur ces questions-là parce que le nucléaire a une place très centrale à la fois sur le nucléaire civil et militaire. Peut-être tu peux citer comment ça fonctionne ailleurs, puisqu'il y a peut-être plus d'action ou plus de sensibilisation faite.
Ben, je dirais, bon, je pense que je pourrais dire que, mettons, sur l'Angleterre, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des actions très fortes. Le mouvement opposé à l'arme nucléaire est très fort. Il y a eu un geste qui a été fait par la Grande-Bretagne. Ils ont abandonné la force aéroportée. Hein, donc déjà, ils ont les sous-marins nucléaires, mais ils ont abandonné la force aéroportée, chose que pourrait faire la France pour montrer qu'elle va déjà dans ce sens-là. Mais pour le moment, on garde tout. Donc ben là, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, une occupation de la base nucléaire pendant une année entière. Hein. Non, ils ont réussi à tenir, donc ça montre la force des mouvements. Et ensuite, après... on voit dans des pays étrangers des actions qui ont été faites par rapport aux banques, et l'une des incidences qu'a la signature, la ratification de ce traité, c'est qu'il y a des banques qui maintenant vont refuser d'alimenter l'armement nucléaire. Plusieurs établissements, alors notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, ont fait savoir qu'ils renoncent à financer l'industrie d'armement nucléaire pour se conformer au TIAN. En France aussi, il y a le JICAT. Alors JICAT, c'est le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, qui, face aux banques qui multiplient actuellement les refus de financement dans le secteur de l'armement, s'inquiète. Et ils disent que c'est pour des raisons d'éthique. Donc on voit que ce traité a des influences réellement.
On rappelle donc ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, dont on parle aujourd'hui avec toi, Guy David, du COT. Et on recite les camarades absents aujourd'hui, mais qui ont longtemps été camarades de lutte, le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, et l'appel des 100. Pour terminer cette émission, en tout cas on arrive vers la fin, je te propose d'écouter une archive sonore pas très vieille, mais qui fait, elle, appel à une histoire plus ancienne. C'est un extrait de la radio Europe 1 du 20 septembre 2017.
Notre première histoire est l'occasion de rendre hommage et de se souvenir d'un homme qui est mort lundi. Personne ne le connaissait, franchement, et pourtant on lui doit beaucoup, c'est un Russe.
Il est bien possible qu'on soit là, ici, vivant, grâce à ce Stanislas Petrov, parce qu'un jour, il y a 34 ans, cet homme a décidé de ne rien faire. Alors, je vous explique, c'était le 26 septembre 83, on est en pleine guerre froide, le lieutenant-colonel Petrov des forces aériennes soviétiques est dans un bunker près de Moscou, chargé de surveiller un système d'alerte satellite, qui était un des premiers. Un peu après minuit, soudainement, un écran signale le lancement de missiles depuis les États-Unis vers l'URSS. 5 missiles se dirigent sur eux, des sirènes retentissent et sur l'écran radar s'affichent les lettres en rouge start, lancement. Alors c'est un peu la panique dans le bureau. Petrov sait qu'il faut faire très vite, il faut qu'il évalue la situation. 6 répliques il doit y avoir, le Kremlin doit la lancer dans la demi-heure. Et qui dit réplique, évidemment, dit guerre nucléaire à ce moment-là. Stanislas Petrov racontera plus tard qu'il a eu l'impression alors d'être assis sur une poêle bouillante, ses jambes étaient complètement flageolantes. Et ce jour-là, à ce moment-là, Petrov décide donc de ne pas donner l'alerte, de rien faire et d'attendre.
Il le prend sur lui, c'est-à-dire qu'il ne prévient pas alors que c'était le protocole, il devait prévenir ses supérieurs.
Oui, mais Petrov, il avait un pressentiment et beaucoup de bon sens finalement. Il s'est dit que si l'Amérique attaquait, ce serait une attaque globale, pas seulement 5 missiles. Après quelques minutes, il a vu aussi que les radars au sol ne confirmaient pas la présence de ces missiles. Il a donc parié sur un bug technologique. Il a prié pour avoir raison et il avait raison. Ce que les satellites soviétiques avaient pris pour un lancement de missiles, c'était juste un reflet sur les nuages.
Mon Dieu, nous le remercions. Ouais. Il a évité donc une guerre nucléaire. C'est donc un héros qui vient de mourir.
Absolument, mais pendant très longtemps, personne n'a rien su de cet épisode. Secret défense, puis il y avait une grosse défaillance du système, donc pas question de reconnaître que quelqu'un dans le lot avait bien agi. Ce n'est que bien après la chute du mur, en 98, que l'histoire de cette nuit de tous les dangers a été racontée. D'abord dans la presse allemande, Stanislas Petrov vivait de sa retraite militaire dans un petit appartement près de Moscou. Et il y a quelques jours, un de ses amis allemands l'a appelé pour lui fêter son anniversaire. C'est comme ça qu'on a su que l'homme qui a sauvé le monde était mort en mai dernier, à 77 ans, dans la plus grande discrétion.
Ah ben on le remercie. Voilà. Et on est content de lui avoir rendu hommage.
Voilà un extrait du journal d'Europe 1 du 20 septembre 2017.
Ça montre qu'une guerre nucléaire est possible, même par accident. Il peut y avoir la volonté, mais il peut y avoir une erreur. Et je pense aussi qu'actuellement, il y a une inquiétude qui est avec les cyberattaques, qui est aussi quelque chose d'inquiétant, parce que si il y a des hackers qui essaient de pénétrer les décisions pour le démarrage d'une bombe atomique, c'est très très inquiétant.
On rappelle donc cette actualité ce 22 janvier 2021. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires entre en vigueur et rend donc illégal l'emploi et même la menace d'armes nucléaires.
Est-ce que je pourrais ajouter un mot pour dire ce qu'on peut faire ?
Oui, bien sûr, j'allais y venir.
En tant que citoyen. Donc, comme on a parlé des banques, je vous signale donc qu'en France est impliquée dans le secteur de l'armement nucléaire, la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, ainsi que AXA Natexis. Alors donc, si vous êtes à cette banque, vous pouvez l'aller voir, les menacer de vous retirer, les interpeller. Ce boulot-là a été fait dans d'autres pays et ça aboutit, quoi. Hein. Donc c'est un travail que l'on peut faire. Vous pouvez aller aussi sur le site d'ICANN ou du MAN ou de l'appel des sangs, je ne sais pas si c'est un site. Et sans doute qu'il doit en avoir un. Et donc, pour prendre la pétition qui demande à ce que la France adhère à ce traité, parce que ce n'est pas parce que le traité il est maintenant ratifié, mais la France et les autres pays peuvent y adhérer. D'ailleurs, il y en a une trentaine qui sont en instance d'adhérer, 30 nouveaux qui sont en train de faire les dernières formalités. Donc, voilà, poussé par cette pétition, mais aussi par des actions directes. À Dijon, il y a eu une action qui s'est faite contre une banque. Donc, c'est pour arriver à faire vivre, c'est à nous aussi à faire vivre ce traité.
Voilà, même si ça paraît une action de grande ampleur, il faut bien commencer par un petit bout.
Alors quand même, je vais donner le site peut-être de oui. ICANN quand même. Hein.
Oui.
Qu'on ait ce site où là vous avez toutes les infos. Quoi. www.icanfrance.org. Voilà, non, avec ça. Et vous pouvez aller aussi à un autre site. abolitiondesarmesnucleaires.org, deux sites pour avoir pas mal d'informations.
.org. Et on rappelle donc qu'on peut interpeller sa banque, demander à son parlementaire d'ouvrir un débat sur le traité, rencontrer son maire pour lui proposer de signer l'appel des villes aussi, il y a un appel des villes apparemment, s'informer et débattre avec des collègues, des amis, ses voisins et tout ça. Quoi. Il ne faut pas rester seul avec ces questions-là.
Je vois que tu relèves l'appel des villes et c'est vrai que c'est très important. Il y a des grandes villes en France comme Paris, Grenoble, Lyon qui l'ont déjà signé. Et ça... ça, c'est un boulot que chacun peut faire, même dans des petites communes. Hein, moi, je veux dire, il faut le plus de villes adhéreront parce qu'il y a une association des maires contre l'arme nucléaire. Et ça aussi, c'est une action de base que l'on peut faire, qui aidera aussi pour faire vivre ce traité.
Et on rappelle la documentation fournie de Paul Quilès, avec un blog avec pas mal de conférences, d'écrits, et on peut retrouver ses livres sur le sujet.
Son bouquin est remarquable, il a fait un livre remarquable, justement qui permet de voir exactement tous les enjeux de cette arme, et notamment l'épisode que tu as parlé, il parle vraiment de tout, enfin, c'est très bien expliqué. Pour entrer dans ce sujet, c'est un très bon bouquin.
Bien, merci beaucoup Guy David et
merci
à bientôt.
À toi.
C'était Gardarem La Terre sur Radio Albitzes et Radio Erdotan.